Yes, merci David. Comment ça va, Nouvelle Vie de Romainville?
Yes, très content d'être avec vous ce matin. Comme l'a dit David, c'est un privilège pour moi d'apporter la parole. Je suis pasteur des ados ici à Nouvelle Vie. Puis comme l'a dit David, hein, c'est fou de voir ce que Dieu fait à travers les jeunes. On peut avoir des fois un peu les préjugés comme quoi vraiment c'est juste la foi chrétienne, c'est juste pour les adultes, pour les personnes plus âgées. Laisse-moi vous dire que cette année-là, c'est juste fou ce qui se passe avec les ados. Là, ils ont passé une pandémie difficile, puis là, c'est juste fou. On a plus de 200 ados qui se réunissent semaine après semaine pour entendre la parole de Dieu. Et cette année, c'est plus de 30 ados qui ont été baptisés. Donc, on peut applaudir réellement ce que Dieu fait. Réellement. Il y a une faim, une soif pour la parole de Dieu chez les jeunes et c'est juste fou de pouvoir servir dans une église comme ça qui croit et qui investit en la jeunesse. Et ouais, c'est vraiment un privilège pour moi de faire ça. Combien ont hâte d'entendre la parole de Dieu ce matin? C'est vraiment un texte que j'ai vraiment à cœur depuis le début de l'année 2020 qui m'a accompagné toute l'année. Puis j'avais vraiment hâte de vous le partager ce matin. Et le titre de mon message, c'est tout simplement « 3 secrets » pour accomplir les projets de Dieu pour toi. La parole nous dit en Éphésiens 2:10 que Dieu a donné à chacun d'entre nous des œuvres préparées d'avance. Il nous dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Qui que vous soyez dans cette salle, Dieu a des plans pour vous. Dieu a des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que vous puissiez les pratiquer. De toute éternité, Dieu avait des rêves, Dieu avait une vision pour chacun d'entre vous et Dieu a prévu un plan pour les accomplir. Et aujourd'hui, on va regarder un texte qui se trouve dans Philippiens et c'est l'apôtre Paul qui va nous donner une clé, qui va nous donner 3 clés en fait de comment marcher dans ces œuvres-là que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Puis s'il y a une personne qui pouvait nous donner des clés, c'est bien l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a écrit plus du 2/3 du Nouveau Testament. Okay, vous pouvez voir ces nombreuses lettres, toutes les lettres. Moi, je travaille avec des ados, donc je suis obligé de trouver des moyens mnémotechniques pour qu'ils s'en souviennent. Je leur dis à chaque fois, toutes les lettres qui se finissent par un, c'est l'apôtre Paul. Romains, Colossiens, Thessaloniciens, tout ça, c'est l'apôtre Paul. Il a écrit plus du 2/3 du Nouveau Testament. Il a bâti des églises en santé, il a prêché l'évangile à des milliers de personnes. Et il va nous donner 3 clés aujourd'hui pour rentrer, pour accomplir ce que Dieu a prévu qu'on accomplisse dans cette vie. Et pour ça, on va regarder un texte qui se trouve dans la lettre aux Philippiens. Cette lettre-là, elle sort un peu du lot de toutes les lettres que Paul a envoyées. Parce que la plupart des lettres de Paul, souvent, c'est en réponse, il envoie des lettres à une église qui est en réponse à des problèmes. Souvent, c'est, ok, vous êtes en train de vous éloigner des voies de Dieu, vous êtes dans le péché en ce moment, c'est le temps de revenir. Ou alors, vous êtes dans l'hérésie en ce moment, vous mettez à croire des choses qui sont juste pas bibliques, c'est pas l'évangile que je vous ai prêché, c'est le temps de revenir. Mais le ton de Philippiens est différent. C'est un ton qui est positif. En fait, il leur fait l'éloge pendant quasiment toute la lettre. Il leur dit, je suis fier de vous. Vous êtes des chrétiens, il les qualifie même de chrétiens matures. Je suis fier de vous, de votre zèle à prêcher l'évangile malgré la persécution. Je suis fier de vous, de votre caractère qui ressemble de plus en plus au caractère de Christ de jour en jour. Je suis fier aussi de votre générosité. Parce que Paul avait un lien de cœur particulier avec cette église-là parce que au moment où il écrit cette lettre-là, il est en prison, il est emprisonné. Et c'est l'église de Philippe qui le soutient financièrement et qui lui permet de subvenir à ses besoins. Puis il lui dit, je suis fier de vous, je suis fier de votre générosité, de votre cœur, vous brillez pour l'évangile, vous êtes des chrétiens matures, mais j'ai quand même des avertissements et j'ai quand même quelques clés à vous donner pour que vous puissiez rentrer dans ce que Dieu a pour vous en cette saison. Parce que Dieu a un plan pour vous, pour nous et veut nous utiliser dans chaque saison de notre vie. Que ça soit dans l'adolescence, dans la jeune vingtaine, dans la trentaine, cinquantaine, 80 ans, 90 ans, Dieu a un plan pour nous et veut nous utiliser. C'est jamais trop tôt pour être utilisé par Dieu, mais c'est jamais trop tard non plus pour être utilisé par Dieu. Et l'apôtre Paul va nous donner 3 clés. Et la première, il nous la donne en Philippiens 3, versets 12 et 13, et c'est la suivante. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. » Il est en train de nous dire que son caractère, il n'est pas encore parfait comme celui de Christ. Mais il dit « Je cours, je poursuis ce but pour tâcher de le saisir. » Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. La première clé que l'apôtre Paul nous donne pour accomplir ce que Dieu a prévu pour nous, c'est de ne pas se considérer arrivé. Paul s'adresse à des chrétiens matures, des chrétiens qui marchent avec le Seigneur depuis quelques années déjà, qui ont l'habitude d'aller à l'église, qui ont une vie de prière, qui mettent en pratique. Et il sait que lorsque ça fait des années qu'on marche avec Dieu, il peut y avoir la tentation à un moment donné de dire j'ai parcouru une distance assez grande, je peux un peu me mettre sur le pilote automatique, je peux continuer juste à faire comme je fais, puis ne plus chercher à progresser. Un peu à se mettre comme sur ce que certains appellent le cruise control spirituel. Est-ce qu'il y en a qui utilisent cette fonction-là, le cruise control sur l'autoroute, ou alors régulateur de vitesse? Okay, pour ceux qui ne connaissent pas cette option-là, elle est révolutionnaire. Okay, c'est surtout lorsqu'on est sur l'autoroute, ça nous permet d'aller à la vitesse qu'on veut, donc 100 km/h, okay, pas plus. Il n'y a personne qui roule à plus de 100 km/h ici. Hein. Il n'y a personne, donc on va à 100 km/h. Et à ce moment-là, on appuie sur un bouton qui s'appelle régulateur de vitesse. Et à ce moment-là, le mécanisme qui est lié au moteur va maintenir la vitesse pour nous. Donc, ce qui fait qu'on n'a plus besoin d'appuyer sur la pédale d'accélération et on n'a même plus besoin de regarder le compteur de vitesse par peur de faire un excès. On est tranquille. Donc, moi, j'ai fait une heure de route pour venir ici. J'ai mis le régulateur de vitesse. J'étais relax sur la route. C'était super. Voyage super agréable. Ça nous permet d'aller à la même vitesse que le trafic sans avoir à faire le moindre effort. On est confortable. Sauf que lorsque ça fait des années qu'on marche avec Dieu, lorsque ça fait des années qu'on sert Dieu, il peut y avoir la tentation de se mettre sur le cruise control spirituel. Pour reprendre cette analogie-là, généralement, dans les premières années de notre vie chrétienne, on appuie à fond sur la pédale d'accélération. Les changements sont visibles à l'œil nu. Notre style de vie change, nos habitudes changent. Moi, je travaille avec des ados, puis des fois, là, c'est drastique, les changements. Là. Des fois, c'est même la manière dont ils s'habillent qui change. Okay, on les voit arriver à l'église d'une manière, puis ils commencent à marcher avec Dieu, puis là, oh, ok, ça s'habille un peu différemment. Lorsqu'on commence notre vie chrétienne, il y a des changements partout. Dans notre langage, dans notre manière de penser, la manière dont on dépense notre argent, on commence à donner à l'église, on commence à servir, à utiliser notre temps différemment. Jusqu'à ce qu'on arrive à un point où bien souvent notre comportement commence à ressembler à la plupart des chrétiens autour de nous, puis on a la tentation de se dire « ça me suffit ». Mon comportement, ma manière de parler, ça ressemble pas mal aux chrétiens qui m'entourent, puis je suis correct avec ça. Puis même des fois d'avoir la pensée de se dire non seulement ça ressemble pas mal aux chrétiens qui m'entourent, mais j'ai même pas tant envie d'être différent. J'aime bien être juste confortable, puis avec tout le monde. J'ai pas envie d'être vu comme un chrétien trop extrême, trop radical. Et là, on a la tentation de se mettre sur le régulateur de vitesse, de ne plus chercher à grandir dans notre caractère, de ne plus chercher à grandir dans la ressemblance à Christ, de ne plus chercher à grandir dans notre amour envers les gens, de ne plus chercher à grandir envers notre générosité, de ne plus chercher à grandir dans notre appel à faire des disciples, à nous investir dans la vie des autres. Une tentation de juste rester et de vivre une vie confortable. Pourtant, lorsqu'on regarde ce que Paul nous dit, l'appel de Paul, ce qu'on voit là, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Il nous dit que c'est une course. Je ne sais pas si vous avez regardé, tout le monde a déjà regardé une course de Formule 1 ou alors une course aux Jeux Olympiques. Les buts là, des compétiteurs, ce n'est pas d'aller à la même vitesse que les gens autour d'eux, c'est de gagner la course. On est d'accord? Sauf que Paul, il n'est pas en train de dire ok, le but, c'est de faire une compétition, celui qui prie le plus ou quoi. Non, non, non. Il n'y a rien de mal à s'inspirer les uns des autres. Puis, il y a quelque chose de sain aussi dans le fait de s'inspirer les uns les autres. Un peu plus tard, Paul dira même, soyez mes imitateurs de la même manière que moi, j'imite Christ. Donc, on est appelé à faire des disciples, on est appelé à être des mentors. Donc, c'est normal de dire, cette personne-là, elle a une vie de prière là, qui m'inspire. Puis, je veux ressembler plus à ça. Puis, il y a quelque chose de sain. On est censé s'encourager les uns les autres. Mais là où ça devient problématique, c'est quand les personnes qui nous entourent deviennent notre référence de pureté, deviennent notre référence, deviennent notre standard d'obéissance. Parce que comme l'a dit Paul, même l'apôtre Paul qui a écrit plus du deux tiers du Nouveau Testament, il se considère comme quelqu'un qui n'est pas encore arrivé. Il a encore de la distance à parcourir. Et si notre standard, si notre référence sont des personnes qui ne sont pas encore arrivées, nos standards sont trop bas. Nos seuls standards de pureté, d'obéissance, de caractère, ça doit être Christ. la personne qui dit, moi, la personne, mon exemple suprême, la personne à qui je veux ressembler dans la manière dont je gère mes relations, dans la manière dont je réponds à l'offense, c'est Christ. Rien de plus, rien de moins. C'est Christ, à Christ que je veux ressembler le plus. Et une des marques de maturité d'un chrétien, c'est justement, c'est qu'il réalise que peu importe la distance qu'il a parcourue, peu importe ce qu'il a pu faire pour Dieu, il réalise tout le temps que, il y a encore du chemin à parcourir. Il y a encore du chemin à parcourir dans mon caractère, mais j'ai encore des choses à accomplir pour faire avancer le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que Paul utilise le verbe « je poursuis ». Ça veut dire, en grec, ça veut dire « dioko », qui signifie littéralement « se déplacer rapidement et énergiquement vers un objectif ». La croissance spirituelle, c'est quelque chose qui est intentionnel. La croissance, si on veut grandir, là, ça doit être une décision de dire, moi, je veux grandir, puis je veux mettre tout en œuvre pour grandir, pour ressembler de plus en plus à Christ, à ce qu'il m'appelle à être et à faire. Dieu ne nous appelle pas dans une marche chrétienne à être sur la défensive de, moi, je veux juste me maintenir dans ma vie chrétienne. Non, il nous appelle à être sur l'offensive. On veut avancer pour Christ. Comme a dit David, je travaille beaucoup avec les ados, puis un de mes buts, moi, c'est de les défier dans leur vie chrétienne. C'est de les challenger, puis c'est de les pousser à s'approcher le plus possible de Dieu. Puis une des manières, tout simplement, c'est d'aller manger avec eux. Souvent, je les paye un peu comme ça. Je dis, je te paye le McDo. Donc là, ils sont tout contents. Je leur paye le McDo, tout ça. Ils prennent leur trio Big Mac. Puis, une petite discussion. Mais toujours, dans la discussion, à un moment donné, je vais poser la fameuse question, comment ça va dans ta relation avec Dieu? Puis là, ils disent, OK, je savais. Puis, comment ça va dans ta relation avec Dieu et tout ça? Puis souvent, ils ont une réponse qui me fait sourire. Ils me disent, Thomas, franchement, en ce moment-là, ça va super bien. Je ne fais pas de gros péchés, je ne fais pas de bêtises. Ça fait longtemps que je n'ai pas été puni. Franchement, ça va super bien. Puis là, à chaque fois, je leur réponds, OK, c'est super. Mais le but de la vie chrétienne, là, ce n'est pas juste de ne pas faire de grosses bêtises, de ne pas faire de gros péchés, mais c'est de porter du fruit. C'est de manifester de plus en plus le caractère de Christ. Dieu a beaucoup plus pour toi que, cette semaine, je n'ai pas tué ma sœur. Dieu a beaucoup plus pour toi que ça. Dieu, il a plus pour toi. Il a une vie en abondance. Il a une vie où tu vas porter du fruit, où tu vas ressembler à Christ, où tu vas être un témoignage pour sa gloire, où tu vas aimer les gens inconditionnellement. Dieu a beaucoup plus pour nous que, je me maintiens bien. Dieu nous appelle à porter du fruit. Dieu nous appelle à porter du fruit. Il nous appelle à avancer et à progresser. Et lorsqu'on poursuit Christ de tout notre cœur, à un moment donné, là, il doit y avoir des changements. Il doit y avoir des changements. C'est Einstein qui disait, la folie, c'est de faire toujours la même chose et s'attendre à des résultats différents. Ma question pour vous, c'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Si on est toujours dans le même mode de vie, s'il n'y a aucun changement dans nos vies, c'est peut-être des fois que notre vie chrétienne est devenue confortable. Moi, il y a une citation que j'aime beaucoup de Timothy Keller qui m'a marqué des années, puis que je répète souvent. Il a dit, c'est seulement quand ton Dieu t'outrage et te dérange que tu sais que tu adores le vrai Dieu et non un produit de ton imagination. C'est quand la dernière fois que le Saint-Esprit vous a donné une conviction qui vous a amené à changer une habitude de votre vie. Que vous avez dit, Dieu m'a parlé là, puis je vivais de cette manière-là, ça je vais le changer. Ça, Seigneur, là, je te le remets. Seigneur, j'avoue que j'allais dans cette direction-là. Non, je vais changer de direction. On est censé vivre des changements continuels lorsqu'on marche pour Christ. On est censé progresser et être en constante évolution. Mais Paul, justement, ce que j'aime bien, c'est qu'il recentre, il donne la motivation de sa poursuite à Christ. Il rappelle que s'il poursuit Christ, s'il cherche à plaire à Dieu, c'est parce que Dieu est venu le chercher en premier. Si on retourne au verset 12, il dit « Je le poursuis, je poursuis Christ, j'essaie de lui plaire et de lui ressembler de tout mon cœur, tâchant de le saisir, pour autant que moi-même j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Paul ici là, il rappelle les fondements de notre poursuite de la sanctification, il nous rappelle les fondements, la base de l'évangile. Si Paul essaye, il nous rappelle que si Paul essaye de poursuivre Christ et de lui ressembler de plus en plus, c'est parce que lorsqu'il était sur le chemin de Damas, qu'il s'en allait persécuter des chrétiens, essayer de détruire l'Église, qui était ennemi de la foi, Dieu le voyait. Dieu le cherchait et Dieu est venu à sa rencontre. Il est venu le toucher, il est venu le pardonner, le restaurer, le transformer complètement et faire de lui un des chrétiens les plus influents de l'histoire de l'humanité. Paul nous rappelle que moi, si je cherche à suivre Christ de tout mon cœur, c'est parce que Dieu m'a aimé le premier. Si je donne tout pour Christ, c'est parce que Dieu a tout donné pour moi. Si aujourd'hui on est là à servir Dieu, à être à l'église, à essayer de briller, à essayer d'être radical pour Jésus, c'est parce qu'il a tout donné pour nous. C'est parce qu'il nous a aimé le premier. Et nous ne sommes pas sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous sommes sauvés pour des œuvres. Et je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai envie de passer à côté de aucune des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi. Aucune. Mais malheureusement, une des choses qui bien souvent nous freine puis nous bloque dans ce que Dieu nous appelle à être et à accomplir, c'est qu'au lieu de regarder en avant, on regarde en arrière. Et ça, c'est le deuxième point que j'aimerais partager avec vous ce matin. Et c'est la deuxième clé que l'apôtre Paul nous donne dans ce texte. Il nous dit la chose suivante. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Imaginez-vous un instant, un coureur qui, dans une course, passe la moitié de son temps à regarder en arrière. Les probabilités qu'il gagne la course, là, elles sont quasiment nulles. En fait, il a beaucoup plus de chances de trébucher, de tomber, de perdre la course que de gagner la course, on est d'accord? Un peu comme ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. À ce moment-là, il y a eu une finale de natation 200 mètres papillon qui a vraiment capturé tous les regards parce que c'était comme une revanche dans la course. Et dans cette revanche-là, il y avait une véritable légende de la natation, Michael Phelps, multiple vainqueur des Jeux Olympiques. Il a gagné plein de courses et il était face à un adversaire redoutable qui s'appelait Chad Leclos, qui avait remporté la course de Rio aux Jeux Olympiques de 2012, 4 ans avant, face à Michael Phelps. Et là, c'était la grande revanche. Tout le monde regardait pour dire, ok, est-ce que Chad Leclos va réussir à battre Michael Phelps une fois de plus? Donc là, tous les regards étaient sur cette course-là. Et juste avant la course, la tension était palpable et tout le monde pouvait voir Chad Leclos un peu arrogant, qui commençait un peu à jouer avec le public, à amuser la galerie. Il essayait de déconcentrer un peu Michael Phelps qui était juste à côté de lui, tout ça. Et Michael Phelps, lui, sa réaction, il était stoïque. Il était stoïque, il regardait droit devant lui sa course, alors que Chad Leclos était en train de faire le fou, lui, il était concentré sur sa course. Et une fois que le coup de départ est sifflé, ils partent et là, la course tient toutes ses promesses. Ils sont au coude à coude durant toute la course jusqu'aux 25 derniers mètres. Aux 25 derniers mètres, là, il va se passer quelque chose de surprenant. Chad Leclos, au lieu de se concentrer sur sa nage, il commence à sortir sa tête de l'eau et à regarder où est-ce qu'il en est, Michael Phelps. Et là, il commence à regarder, il se déconcentre. Et dans les 25 derniers mètres, alors qu'il perd son focus, il dégringole au classement et il ne fera même pas le podium. Michael Phelps gagnera la course et ça donnera cette image-là qui a fait le tour du monde. On voit Chad Leclos regarder à Michael Phelps et cette image-là a fait la une des journaux parce qu'elle symbolise le fait que la personne qui est concentrée sur sa course a beaucoup plus de chances de gagner que la personne qui regarde à droite, qui regarde à gauche, qui regarde en arrière. Et c'est pour ça que Paul rappelle aux Philippiens de dire « Ta course, ce n'est pas sa course. On a chacun notre appel, on a chacun nos dons, nos talents et on doit être concentré à marcher dans ce que Dieu nous appelle à être et à faire. On n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Dieu nous a créé chacun d'une manière unique. C'est pour qu'on accomplisse de manière unique ce qu'il nous a préparé et ce qu'il nous a destiné à accomplir. Non seulement ça, il ne faut pas regarder à droite, il ne faut pas regarder à gauche, mais il ne faut pas regarder non plus en arrière. » Et lorsqu'on s'attarde au contexte, c'est vraiment intéressant parce que s'il y a quelqu'un qui pouvait regarder en arrière, c'est l'apôtre Paul. Parce qu'au moment où il écrit cette lettre-là, il a déjà prêché l'évangile à des milliers de personnes, dans un contexte de persécution. Et puis il a été fidèle à Christ là comme personne. Là. Et tous ces exploits-là auraient pu le pousser à la complaisance. Parce qu'à ce moment-là, il prêchait l'évangile à des milliers de personnes dans un contexte de persécution. Actes des apôtres nous montre même un épisode où il prêche l'évangile et il se fait lapider. On lui lance des pierres puis on le laisse pour mort. Et puis finalement, il échappe à la mort, il se relève. Et puis là, on se dirait, ok, il a prêché l'évangile, il s'est fait tabasser, il se relève. Ok, il va aller voir la CSST, il va prendre un 6 mois de congé maladie. Non, il se relève. Et puis sa réaction à lui, c'est d'aller dans la ville suivante et de recommencer à prêcher l'évangile. Il recommence à prêcher l'évangile. À ce moment-là, il a bâti déjà des dizaines et dizaines d'églises en santé. Il est en prison à ce moment-là à cause de sa foi. Il aurait très bien pu se dire, la distance que j'ai parcourue là, pas mal impressionnant. S'il y a quelqu'un qui peut lever le pied un peu là, c'est moi là. Je suis en prison, je suis fatigué, je suis malade, j'ai tout donné pour l'évangile, il ne me reste plus de jus. Je peux juste passer les dernières années de ma vie là, juste me maintenir. Je vais juste me maintenir, puis je vais prier, je vais faire confiance à Dieu qu'un jour je vais être au ciel avec lui, mais je vais juste lever le pied. Puis on serait passé à côté de la lettre aux Philippiens qui a influencé, qui a transformé la vie de centaines de millions de personnes. Mais il choisit de dire non. Il choisit de dire merci Seigneur pour ce qui a été accompli dans le passé. Merci Seigneur pour les progrès que j'ai accomplis dans mon caractère, pour l'influence que tu m'as donnée. Mais je veux continuer à courir parce que je sais que tu n'as pas fini avec moi. Parce que je sais que tu as plus pour moi. Tu m'appelles à grandir en tant qu'être humain, en tant que chrétien. Mais tu m'appelles aussi à continuer à prêcher l'évangile. Tu veux aussi sauver des âmes à travers moi. Tu veux restaurer des mariages, tu veux restaurer des vies à travers ma vie. Et tu n'as pas fini de m'utiliser. Et j'aimerais peut-être encourager ce matin quelqu'un qui peut-être a été utilisé par Dieu dans le passé. Tu as vécu des choses, puis là aujourd'hui tu es dans la tentation de dire je vais juste ralentir un peu. J'ai fait mon temps, j'ai été passionné par Christ, j'ai essayé de tout mon cœur de lui plaire, mais là je veux juste laisser la place aux jeunes. J'aimerais te dire que Dieu n'en a pas fini avec toi. Dieu n'en a pas fini avec toi et il veut t'utiliser dans cette saison-là. Non seulement il veut t'utiliser toi, mais il veut toucher des personnes à travers ta vie. J'ose même pas imaginer si Paul c'était juste reposer sur ce laurier, on serait passé à côté d'une lettre qui a tout changé. J'aimerais te dire que ton entourage a besoin de toi. Dieu veut se servir de toi pour bénir, pour faire de toi une source de bénédiction pour les personnes de ton entourage. Ne lâche pas, ne lâche pas. Est-ce qu'on peut encourager quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce matin? Réellement, on a besoin de toi. On a besoin de toi. Alors qu'ici à Drummondville, on a un site en pleine croissance. Il y a de la place pour chacun d'entre vous, pour prendre votre place et pour être utilisé par Dieu. Paul, ses accomplissements pouvaient être une occasion de chute pour lui de dire je regarde en arrière puis je me repose là-dessus. Mais peut-être que toi, tu es là ce matin, puis ce qui te retient d'avancer pleinement dans ce que Dieu t'appelle à accomplir, c'est pas tes accomplissements, mais c'est tes échecs. C'est la culpabilité. C'est la honte. Peut-être que tu as commis des erreurs cette semaine qui te rongent, puis tu te dis tu me parles d'influence, tu me parles d'avoir une vie qui compte. J'ai trop gaffé, j'ai trop fait d'erreurs. S'il y a quelqu'un qui pouvait être dans cette situation-là, c'est Paul aussi. Parce que avant d'être un bâtisseur du royaume de Dieu, il cherchait à le détruire. Il cherchait à détruire. Sa mission, c'était de faire emprisonner des chrétiens. Sa mission, c'était de faire taire l'évangile. Ça, c'était ce pourquoi il vivait. Acte des Apôtres nous décrit même une scène où il est là face à Étienne qui se fait lapider, qui se fait tuer à mort, puis le regarde froidement avec un regard de satisfaction. Paul aurait pu très bien être rongé par le remords de dire j'ai participé à tuer des personnes qui étaient là pour Christ. J'ai trop gaffé, j'ai trop fait des erreurs. Oui Seigneur, tu m'as pardonné, oui tu m'as sauvé, mais je vais juste faire profil bas parce que j'ai trop fait d'erreurs. Mais non, il dit non. Il dit Seigneur, tu m'as pardonné, si tu es venu mourir à la croix pour moi, c'est pas pour que je reste à m'apitoyer sur mon sort, c'est pour que j'accepte ton pardon et que je m'empare de ce que tu as pour moi. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce matin. J'aimerais te dire que tu ne peux pas aller trop loin. Tu ne peux jamais aller trop loin pour que Dieu ne veuille plus de toi. Peu importe à quel point tu as l'impression d'être loin, Dieu a les bras grands ouverts. Puis des fois, on a besoin de se rappeler l'évangile. On a besoin de se rappeler ce qui a pris place sur la croix. De se rappeler que lorsque Jésus est venu mourir à la croix, il est venu mourir à la croix pour tes péchés passés, présents et futurs. Lorsqu'il a choisi de venir mourir à la croix, il connaissait les péchés que tu avais commis dans ton passé, dans ton présent, et même les péchés que tu allais commettre après lui avoir donné ta vie. Il connaissait même les péchés que tu allais commettre après lui avoir promis que tu n'allais plus recommencer. Il avait connaissance de toutes choses. Mais il a quand même dit, malgré que je connais tout ça, les péchés que cette personne-là va commettre dans toute sa vie, je l'aime tellement que je vais aller au bout pour elle. je vais quand même aller mourir sur la croix pour lui offrir le pardon de ses péchés. J'aimerais te dire que tu n'es jamais trop loin. Tu n'es jamais trop loin et Dieu a les bras grands ouverts. Dieu a les bras grands ouverts et il veut même utiliser tes erreurs pour être une source de bénédiction et un témoignage pour inspirer d'autres, pour guérir d'autres, pour restaurer d'autres. Est-ce qu'on peut encourager quelqu'un ce matin? Dieu n'en a pas fini avec toi. Dieu n'en a pas fini avec toi. Dieu n'en a pas fini avec toi. On ne peut jamais aller trop loin. Puis, l'appel que Paul nous lance là, ce n'est pas non plus un appel à juste oublier le passé. Là. Parce qu'à de nombreuses reprises, la parole de Dieu nous appelle à nous souvenir de la bonté de Dieu. À nous souvenir de, où est-ce que j'étais et où est-ce que je suis en ce moment. Le psaume 103 qu'on connaît tous, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il y a quelque chose de fort dans le fait de se souvenir, de se rappeler. Juste le peuple d'Israël, toutes les fêtes que Dieu donnait au peuple d'Israël, c'était justement pour les encourager, pour leur dire, faites cette fête-là pour vous souvenir que c'est moi qui vous ai sorti d'Égypte. Donc l'appel de Paul là, ce n'est pas un appel à juste oublier notre passé. C'est juste un appel à refuser nos succès passés, à nous gonfler notre orgueil et juste à nous conduire à la complaisance. Mais c'est aussi un appel à ne pas permettre à nos échecs passés de nous faire marcher dans la honte et nous empêcher de nous emparer pleinement de ce que Dieu a pour nous. Et quand Paul nous appelle à regarder en avant, il nous appelle à être concentré, oui, sur le présent et sur le futur, mais il nous appelle aussi à regarder encore plus loin à l'éternité. Et c'est mon dernier point. Comment s'emparer pleinement de ce que Dieu a pour nous en regardant à l'éternité? Quelques versets plus loin, il rappelle aux Philippiens une vérité fondamentale. Une vérité qui est facilement oubliable, mais qui est tellement capitale pour s'emparer de ce que Dieu a pour nous. Il leur rappelle ceci. Nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Il leur rappelle que leur vraie demeure, là, elle n'est pas sur terre, elle est au ciel. Et parce que notre vraie demeure est au ciel, il leur dit ceci. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Les réalités du ciel, qu'est-ce que c'est? Les réalités du ciel, c'est que si tu as placé ta confiance en Jésus, la fin de ce monde n'est pas la fin pour toi. Qu'après cette vie, tu vas être avec Jésus pour toujours dans un monde sans souffrance, sans maladie, sans injustice, sans tristesse, sans chagrin, sans péché. Un monde rempli de joie, d'amour, de paix, de grâce. Un monde où on va voir Dieu face à face. Un monde qui fera paraître toutes nos plus grandes joies, expérimenter ce monde comme étant quelque chose de dérisoire. Un monde où on va voir Dieu face à face, sans filtre. Ça va être incroyable. Mais ma question pour vous, c'est quand la dernière fois que vous avez pensé au ciel avec anticipation? Que vous avez eu la pensée de, oui, j'ai des rêves, j'ai des aspirations dans ce monde-là, mais j'ai vraiment, 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 vraiment hâte d'être au ciel avec Jésus. L'apôtre Paul, il nous dit, pensez à ces choses-là, aspirez à ces choses-là. En fait, il nous dit quoi? Il nous dit, émerveillez-vous beaucoup plus de ces choses-là que des choses de ce monde. Parce que lorsque notre focus est seulement sur les choses de ce monde, que notre joie, notre espérance est seulement sur les choses de ce monde, les conséquences sont dramatiques. Puis le verset d'avant, il nous donne les conséquences. Il nous donne les conséquences de perdre notre focus, de perdre notre espérance et notre anticipation d'être au ciel avec Jésus, en nous décrivant la manière dont certains chrétiens grecs de l'époque vivaient. Puis ces conséquences, c'est la suivante. Il leur dit, car il en est beaucoup en ce moment qui vivent en ennemi de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé. Je vous le dis une fois de plus en pleurant. Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Il est en train de leur dire, ils ont pour Dieu les plaisirs éphémères et temporaires de ce monde. Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Paul est en train de le dire, ils sont en train de passer à côté de la volonté de Dieu pour leur vie parce qu'ils vivent comme si ce monde-ci était tout ce qui existait. Comme s'il n'avait pas été créé pour plus, comme si l'éternité n'existait pas. Et beaucoup ont vécu cette désillusion-là, de dire, moi je vis juste pour cette vie sur terre, je veux accomplir mes rêves, je veux goûter à tous les plaisirs de ce monde, je veux bénéficier de tout ce qui est possible d'avoir sur cette terre. Et lorsqu'ils sont rendus là, ils réalisent que finalement, c'est pas assez. C'est vanité, c'est vapeur. Un des exemples qui m'a marqué dans les dernières années, c'est l'acteur Jim Carrey. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Star international, reconnu, il a gagné des dizaines et des dizaines d'awards, succès professionnel, succès financier, millionnaire, il avait tout, il avait une famille, le succès, la popularité, tout ce qu'on pouvait avoir sur cette terre, il a accompli ses rêves, ses projets, incroyables. Mais sauf que Jim Carrey est passé par une dépression sévère, et alors qu'il sortait de cette dépression-là, il en est sorti beaucoup plus lucide et équilibré. Il a répondu à une question d'un journaliste qui a fait encore une fois la une des journaux et qui a été marquante, et il a déclaré ceci. « J'aimerais que tout le monde puisse devenir riche et célèbre et avoir tout ce dont il rêve, de sorte que tous comprennent que ce n'est pas la réponse. » C'est pour ça que Paul nous dit « Tendez vos pensées vers les réalités du ciel. Ne soyez pas concentrés seulement sur les choses de ce monde. » Puis encore une fois, être connecté, avoir la mentalité du ciel, c'est pas un appel à juste négliger ses responsabilités. C'est pas l'appel que Paul nous lance. À de nombreuses reprises dans la Bible nous appelle à l'excellence, à travailler fort, à donner notre meilleur dans tout ce qu'on fait. Que tout ce que vous fassiez, tout ce qu'on fait, faites-le comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Il nous appelle à prendre soin même de nos responsabilités. Il dira même à Timothée, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. Donc avoir la mentalité du ciel, puis penser et s'émerveiller beaucoup plus des réalités du ciel que de la terre, ce n'est pas juste négliger ses responsabilités. En fait, ce n'est pas du tout ça, c'est l'inverse. Mais c'est de les considérer, d'aborder nos responsabilités terrestres avec la perspective qu'un jour, les réalités célestes, elles vont devenir terrestres pour nous. Ça va devenir notre réalité. Et avoir cette mentalité du ciel-là, ça change énormément de choses. C'est comme si je vous disais là, dimanche prochain, à cette heure-ci, vous allez tous et chacun recevoir $1 million sur votre compte en banque. Il y a des amens. C'est une illustration, ne m'envoyez pas d'email après. On est d'accord que vous aimiez l'argent ou pas, vous allez aborder votre semaine différemment. Vous allez vivre, par exemple, si vous avez un accrochage sur la route avec une autre voiture qui va vous pousser à aller au garage. C'est pas grave, il y a $1 million qui arrive. Peut-être que je dois changer mon frein, je dois changer quoi que ce soit. Quoi, c'est combien? 4 000, 5 000? J'ai $1 million qui arrive, c'est pas grave. Si vous allez au travail et que votre employeur vous dit, hey, tu sais quoi, la promotion pour laquelle tu travaillais fort là, depuis un an, et l'augmentation, là, je vais devoir la donner à quelqu'un d'autre. C'est pas grave, il y a $1 million qui arrive. Vous comprenez que avoir cette nouvelle-là, dire, hey, dimanche prochain, j'ai $1 million qui arrive, ça change la perspective de comment on vit nos épreuves, de comment on fait face à nos responsabilités. Mais combien sont d'accord pour dire que ce que Dieu nous réserve dans l'éternité est a beaucoup plus de valeur qu'un $1 million? Beaucoup plus de valeur. Yes, on peut l'applaudir. Non seulement ça a beaucoup plus de valeur, mais contrairement à ce que je viens de vous dire, c'est garanti. C'est une promesse. Tous ceux qui ont placé leur confiance et leur foi en Jésus ont la vie éternel. C'est censé changer beaucoup de choses. Pour l'éternité, on va être avec Jésus. Sans souffrance, sans maladie, sans injustice. Man, c'est censé tout changer pour nous. Tout changer. Et ça a tellement de l'impact qu'au lieu de nous rendre passifs, c'est ça qui va nous donner encore plus d'efficacité à servir Christ. Encore plus d'efficacité. C.S. Lewis, un des philosophes chrétiens les plus brillants de l'histoire, ira même jusqu'à dire la chose suivante. En lisant l'histoire, on découvre que les chrétiens ayant exercé la plus grande influence de leur temps pensaient le plus souvent au monde à venir qu'au monde dans lequel ils étaient. Avoir la mentalité du ciel, ça ne va pas te déconnecter en disant « Ok, je ne vais pas payer mes factures hydro. » Non, non, non. Ça va nous donner une drive, un moteur pour pouvoir prêcher l'évangile, pour pouvoir avoir et manifester le caractère de Christ, pour pouvoir être un témoignage pour les personnes qui nous entourent. Ça va être notre mentalité. Ceux qui ont la mentalité du ciel, vont revêtir le caractère de Christ. Ça va être les plus humbles. Parce qu'on va vivre tous les jours avec la réalité que hey, si j'ai accès à l'éternité là, c'est pas à cause de mes mérites, c'est pas à cause de mes dons, pas à cause de mes talents, pas à cause de mes capacités, mais seulement dû à la grâce de Jésus, au pardon de Christ pour moi. Les chrétiens qui ont la mentalité du ciel, ça va être ceux qui vont être les plus patients, parce qu'ils vont vivre tous les jours avec le rappel que hey, Dieu, il est patient envers moi, là. Je peux être patient envers toi. Ceux qui ont la mentalité du ciel, ça va être ceux qui vont être les plus doux, qui vont éviter le plus de querelles inutiles, parce qu'ils vont avoir le recul de dire, qu'est-ce que représente cette offense-là face à la perspective de l'éternité? Et surtout, qu'est-ce que représente cette offense-là face à toutes les offenses que Dieu m'a pardonnées? Pas grand-chose, je vais mettre mon énergie ailleurs. Ceux qui ont la mentalité du ciel, ça va être ceux qui seront les moins envieux, les moins jaloux, parce qu'ils vont réaliser que, c'est moi qui ai le jackpot, là. L'éternité, je vais la passer au ciel avec Dieu. Et je sais que même les plus grands exploits, les plus grands accomplissements de ce monde, ce n'est pas ça qui va me combler. La seule personne qui peut me combler, c'est Christ. Avoir la mentalité du ciel, ça change tout. Avoir la mentalité du ciel, ça change tout. Et en fait, c'est ces réalités-là qui sont à la fois notre motivation et ce qui nous donne la capacité d'obéir à Dieu. Sans l'émerveillement qu'on a face à tout ce que Dieu a fait pour nous, c'est impossible de vivre dans les voies de Dieu. C'est impossible de vivre et d'accomplir ce que Dieu a pour nous. C'est comme essayer de gagner une course Formule 1 sans moteur. Notre moteur, là, c'est notre émerveillement face à l'éternité, face à ce que Dieu nous a donné. C'est ce que Paul nous disait. Il disait, je poursuis Christ, pourquoi? Parce que Christ m'a poursuivi. Je cherche Christ parce que Christ m'a cherché le premier. J'aime Christ parce que Dieu m'a aimé le premier. C'est ça notre moteur. Et c'est pour ça que des fois, c'est tellement dangereux d'être concentré seulement sur les réalités de ce monde, parce que c'est à ce moment-là qu'on perd ce focus-là, qu'on perd l'émerveillement face à tout ce que Dieu a fait pour nous. On a besoin d'être émerveillé par tout ce que Dieu a fait pour nous. Puis on va prendre un chant, mais juste avant, j'aimerais vous inviter à pencher la tête. Qu'on puisse se recueillir en ce moment, puis qu'on puisse sonder nos propres cœurs, sonder où est-ce qu'on en est par rapport à ça, de dire, Seigneur, est-ce que je suis encore émerveillé par l'éternité? Est-ce que je suis encore émerveillé par tout ce que tu m'offres? Est-ce que je suis encore émerveillé par la grandeur de ton œuvre à la croix pour moi? Est-ce que je suis encore émerveillé par ton amour pour moi? Est-ce que je suis encore émerveillé par tout ça, ou est-ce que je l'ai pris pour acquis? Où est-ce que ma joie est en ce moment? Est-ce que ma joie est beaucoup plus dans mes rêves terrestres, dans les choses de ce monde? Ou est-ce que ma joie, elle est en toi? Elle est dans ce que tu me donnes, dans ce que tu m'offres. Où est-ce que ma joie est? Quelles sont mes priorités? Quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai fait une décision qui m'a poussé à changer mes habitudes pour te plaire plus? Où est-ce que j'en suis? Et peut-être que vous êtes là ce matin, puis j'aimerais vous donner une opportunité de faire un move pour Dieu ce matin. Si vous êtes là et vous dites, ce message, il est pour moi. Puis Seigneur, je veux recommencer à courir. Je veux commencer peut-être à courir, ou je veux recommencer à courir la course que tu m'appelles à courir. Peut-être que j'ai été sur cruise control ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être même ces dernières années. Seigneur, je veux recommencer à courir. Je veux recommencer à courir. Je veux recommencer à appuyer sur la pédale d'accélérateur. Si c'est votre cas, je vous inviterai, alors que les yeux sont fermés, à titre de symbole, à lever la main là où vous êtes. Et de dire, Seigneur, moi, je veux recommencer à courir pleinement pour toi. Je veux recommencer à vivre pleinement pour toi.